Europe 1.
Nous sommes le lundi 18 mars, il est 7h. Bon réveil à vous.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Personne ne réussira à nous faire peur. Les premiers mots de Vladimir Poutine, reconduit pour un cinquième mandat à la tête de la Russie avec près de 88% des voix. Le spécialiste de la Russie à Europe 1 dès le début de ce journal. Pas de réaction de Paris après cette réélection sans surprise. Mais pour quelle raison? On va voir ça. Dans ce journal également, ces violents incidents à la Courneuve. Cette nuit, le commissariat ciblé par une attaque au mortier d'artifice par plusieurs dizaines de jeunes. 6 personnes ont été interpellées. L'impatience des agriculteurs toulousain également qui ne voit toujours rien venir. Le versement des aides de la PAC se fait toujours attendre sur les comptes bancaires. Et puis on parlera football. Kylian Mbappé royal hier soir face à Montpellier, auteur d'un triplé dans cette victoire du Paris Saint-Germain. 6-2 en clôture la 26e journée de Ligue 1.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'issue du scrutin ne faisait guère de doute. Vladimir Poutine, réélu pour la 5e fois président de la Fédération de Russie avec 87,9% des voix. Score sans appel qui ne trompe pas grand monde. Autre fait notable, la participation en nette hausse et le concert de manifestations hostiles au régime à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie. Nicolas Tonev.
Une large progression par rapport au score de presque 77% de 2018. C'était la première des exigences du Kremlin envers les gouverneurs des régions responsables des opérations de vote. Une autre exigence était de pouvoir exhiber un vote filmé par les télévisions d'État dans les 4 régions annexées d'Ukraine et qui le resteront. Ces 2 objectifs essentiels pour le maître du Kremlin remplis. Les télévisions d'État ont pu livrer hier soir leurs analyses aux Russes. Ces chiffres prouvent à quel point ils soutiennent leur président, le suivent et l'encouragent dans ce qui est appelé en Russie l'opération spéciale contre Kiev. Ces chiffres montreraient aussi la résistance du pays face à l'Occident et à ses manœuvres pour le déstabiliser. Alors le degré de fraude, hein, s'il y en a eu, ne sera jamais mesuré. Mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'avait jamais recueilli un tel score et jamais les autres candidats n'avaient obtenu aussi peu de voix. Des chiffres qui font dire à l'opposition, alors que le vote de protestation à midi a très bien fonctionné, que le score du maître du Kremlin n'a rien à voir avec la réalité du pays.
Le spécialiste de la Russie à Europe 1, Nicolas Tonev, que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. On attendait évidemment les premières déclarations de Vladimir Poutine. Le président réélu a immédiatement lancé un avertissement à ses adversaires à l'intérieur des frontières de la Russie. Mais surtout, au-delà, nous ne laisserons personne nous intimider.
De nombreuses tâches nous attendent, mais lorsque nous serons consolidés, je pense qu'il sera devenu clair pour tout le monde que peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui et à quel point ils veulent supprimer notre volonté, notre conscience, personne dans l'histoire, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui, ne fonctionnera pas à l'avenir, jamais.
Vladimir Poutine hier soir après la proclamation des premiers résultats.
Et côté réaction international, c'est le service minimum ou pas loin.
Vladimir Poutine, un homme ivre de pouvoir, guidé par une volonté, régner éternellement, déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une élection qui n'est ni légale, ni libre, ni équitable, dénonce la Pologne, argument repris à peu près dans les mêmes termes par Londres et Washington. Aucune félicitation à attendre d'Emmanuel Macron, mutisme assumé du chef de l'État, Jacques Serey.
En avril 2022, Vladimir Poutine avait adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. 2 ans plus tard, le locataire de l'Élysée refuse de faire de même pour le maître du Kremlin et le président s'en explique dans les colonnes du Parisien. La mort d'Alexei Navalny et l'interdiction de tous ses opposants font que l'on ne peut pas féliciter quelqu'un d'une élection ourlée de la mort de ceux qui se sont battus pour le pluralisme en Russie. À cette occasion, Emmanuel Macron renouvelle même son propos au sujet de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes, explique-t-il. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Un message de fermeté assumé avec une nuance. Le chef de l'État précise qu'il ne le souhaite pas et qu'il n'en prendrait pas l'initiative. À l'aube de son 5e mandat, Vladimir Poutine voit donc Emmanuel Macron s'afficher comme l'un de ses premiers opposants.
Jacques Serey du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron, premier opposant à Moscou. Ben tiens, Vladimir Poutine a tenu à lui répondre hier soir, peu après l'annonce de sa réélection. La rhétorique guerrière du président français, une astuce bien connue pour couvrir les problèmes internes de son pays, dit le chef du Kremlin. J'aimerais que la France fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. Fin de citation.
Il est 7h05 sur Europe 1. Alors à propos de problèmes internes, Berne à la France, la Courneuve secouée cette nuit par de violents incidents entre jeunes et forces de l'ordre.
Les détonations, le bruit des tirs de mortiers d'artifice contre la façade du commissariat. Les affrontements ont duré une partie de la soirée et du début de la nuit avant le retour au calme. 6 personnes ont été interpellées, des renforts policiers déployés. Affrontements qui auraient un lien avec la mort d'un jeune mercredi soir sur la commune voisine d'Aubervilliers lors d'une course-poursuite avec une voiture de police.
Et ce déplacement à présent très attendu au collège Édouard Herriot de Chenauve en Côte d'Or, celui de la ministre de l'Éducation.
Et 3 jours après la menace proférée par un adolescent armé d'un couteau à l'encontre de la proviseure de cet établissement, le collégien de 15 ans dort en prison depuis hier soir, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur enseignant. Ses explications restent assez confuses et contradictoires à ce stade. Noémie Loisel.
L'élève de 15 ans, exclu il y a quelques semaines à la suite d'un incident, raconte d'abord avoir voulu se venger de sa professeure d'anglais, détaille Olivier Caracoch, le procureur de Dijon.
Il expliquait tout d'abord avoir voulu se venger en souhaitant la planter, puis s'être ravisé car, selon ses termes, planter une prof, c'était trop grave, et décider, toujours pour se venger, de la prendre en otage dans sa classe.
Mais à la fin de sa garde à vue, le collégien donne une deuxième version.
Il expliquait en réalité avoir été recruté par des connaissances qui avaient eu vent de ses difficultés avec sa professeure pour la tuer au sein du collège, elle et 3 membres de l'équipe éducative. Il déclarait qu'il devait être rémunéré pour cela.
Des investigations sont toujours en cours, confiées à un juge d'instruction pour vérifier la crédibilité de cette piste. Dans la lettre que l'adolescent avait remis à la principale avant de la menacer avec un couteau, il a écrit « Je ne fais ça pour aucune raison ». Assis, c'est pour mes frères qui sont morts le 18 novembre 2015. Dijon, Noémie Loisel, Europe 1.
Ils avaient promis de repasser à l'action. Les agriculteurs toulousains se mobilisent à nouveau ce matin.
Et on rappelle que le mouvement est né en Occitanie. Une centaine d'agriculteurs devraient prendre la route d'ici une heure, direction le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Bonjour Charles Lhuillier.
Bonjour, bonjour à tous.
Un correspondant d'Europe 1 en Occitanie. On n'a pas de chiffres précis sur l'ampleur de cette mobilisation, mais la colère, elle est toujours palpable.
Oui, toujours très peu d'éléments pour l'instant sur le nombre d'agriculteurs mobilisés. Une certitude, ils comptent venir depuis le Gers, le Tarn, l'Aude, tous les départements voisins. Tous devraient donc arriver par les principales entrées de Toulouse. Je me suis entretenu hier soir avec un représentant syndical à bout. En cause, les contrôles dans les exploitations qui continuent et parallèlement les aides financières promises il y a un mois qui n'arrivent pas. Conséquence, d'ici une heure, tous les agriculteurs mobilisés vont se rendre dans la commune de Balma, en périphérie de la ville, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, car c'est là que se trouve le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Ils devraient y arriver vers 10h et seront reçus par la directrice de ce centre. C'est donc en fonction du contenu de cette rencontre qu'ils décideront ou pas de rester sur place.
Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Et ce festival offensif à présent du PSG hier soir face à Montpellier, 6-2.
Un score de tennis pour les Parisiens en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé a marqué 3 fois, preuve que sa motivation n'est pas émoussée. À quelques mois pourtant de quitter la capitale, l'entraîneur Luis Enrique le dit clairement, tiens, profitez le temps qu'il est là, parce que ça ne va pas durer.
Quand vous avez des joueurs de cette qualité, c'est forcément plus simple. Kylian marque des buts comme ça depuis qu'il est né. Il a encore réalisé une performance exceptionnelle. On va profiter de lui au maximum. Quand on ne pourra plus, il faudra augmenter notre niveau.
À ser positifs et à seguir mejorando.
Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à propos de la star Kylian Mbappé. 250 buts inscrits sous le maillot parisien en cette saison pour Kylian Mbappé, record absolu au classement. Paris se rapproche évidemment d'un nouveau sacre, 12 points d'avance sur Brest à 8 journées de la fin.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.
À suivre sur Europe 1, il est 7h09, l'édito éco.
Et en route pour un énième grand débat, cette fois sur la stratégie énergie-climat. Gabriel Attal veut une grande consultation nationale sur le sujet. Le problème étant qu'on en a déjà eu une exactement sur le même sujet il y a moins d'un an et demi. Nicolas Bouzou nous en parle dans 10 minutes, juste après l'invité actu d'Europe 1 matin. Nous serons en ligne avec Anthony Ménard, le secrétaire général de la FDSEA du Maine-et-Loire. Est-ce que la crise agricole est en train de repartir? On va lui poser la question.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'agriculteur Anthony Ménard.
Bonjour Anthony Ménard.
Bonjour Monsieur Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes vous êtes agriculteur. D'abord, on va commencer par là. À Saint-Lambert-la-Poterie, c'est tout près d'Angers. Vous travaillez en famille avec votre frère, votre beau-frère, votre oncle. Lait, volaille, bovin, plein air, des cultures aussi. Et vous êtes, je le signale aussi, le secrétaire général de la FDSEA de Maine-et-Loire. La question qui se pose ces jours-ci, Anthony Ménard, où est-ce qu'on en est du versement des subventions de la PAC? Rappelez-vous, chers auditeurs d'Europe 1, Gabriel Attal, il y a quelques semaines, avait promis que les aides seraient toutes versées au 15 mars sur les comptes bancaires des exploitants. Bon, le 15, c'était vendredi, nous sommes lundi. Apparemment, le compte n'y est pas, Anthony Ménard. Ça donne quoi autour de vous? Et vous, en particulier, vous avez perçu ces fameuses aides?
Alors, ça donne quoi autour de nous? Bah, vous venez de le dire, aujourd'hui, promesse non tenue du gouvernement. On est effectivement le 18, on attendait le versement des aides PAC comme ça nous avait été promis et même écrit par le Premier ministre le 1er février. Aujourd'hui, il en manque. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui dans l'agriculture deux possibilités de toucher la PAC. La première qui est en fonction de nos hectares, et ça c'est il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui cette partie-là est quasiment payée. Mmh. Mais par contre, il y a toute une partie découplée et qui dépend de notre façon de produire. Entre autres, par exemple, aujourd'hui on a des aides sur l'agriculture biologique.
Oui. Vous devez respecter, on va expliquer aux auditeurs comment ça marche. Alors, pas trop de technique parce que c'est extrêmement complexe, mais vous devez respecter toute une série d'exigences environnementales. Ça s'appelle les bonnes conditions agricoles et environnementales. Il y en a tant que ça, Anthony Ménard, ces fameuses BCAE, ces bonnes conditions agricoles.
Bah oui, il y en a un paquet. Je crois que il y a 9 textes différents au sein de la PAC qui sont forcément à l'intérieur de chaque texte et conduits d'un certain nombre de lignes. Donc oui, il y a beaucoup de choses à respecter. Ouais. Et le minima du minima, c'est de tenir ses engagements et ses promesses. Je rappelle que là, on parle du paiement d'un acte de production qui date d'un an.
Mais pourquoi l'argent n'arrive... Oui, parce que ce sont les aides PAC 2023, qu'on soit bien
c'est
clair.
Cela.
Mais pourquoi l'argent n'arrive pas? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous avez un début de réponse, Anthony Ménard?
Il faudrait demander au gouvernement. Pour le coup, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi en fait ça bloque. Parce que qu'est-ce qui bloque en fait? C'est les intérêts financiers de ces aides. Parce que au lieu de les toucher maintenant, on risque de les toucher dans quelques mois. Et on parle donc du coup des quelques intérêts financiers que cela génère. Moi, je crois aussi que ce qui bloque, c'est l'informatique.
Les intérêts financiers, c'est la bonne excuse. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par les intérêts financiers, Anthony Ménard? Vous sous-entendez que cet argent, il est bloqué, il travaille pas, mais pas pour vous, en attendant de vous être versé. C'est ça?
Je sous-entends rien du tout. Mmh. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si on touche cet argent au mois de juin, ou voire pire, dans le pire des scénarios, à l'automne, c'est 5-6 mois de frais financiers que les agriculteurs vont devoir assumer.
D'accord, j'ai compris. Parce qu'en attendant, sans les aides, comment font les agriculteurs, Anthony Ménard, concrètement? Enfin, en ce qui vous concerne, par exemple, comment vous faites?
Sans les aides, on fait des prêts de trésorerie. Voilà. Mmh. Quand on a des difficultés de trésorerie, c'est comme ça aujourd'hui. C'est à déplorer sur toute la filière bio, qui est aujourd'hui une filière en crise, et sur lequel aujourd'hui on aurait bien besoin, en tout cas, que les agriculteurs touchent leur solde sur cette filière.
Est-ce que vous pensez que c'est de nature, Anthony Ménard, donc cet argent qui vous a été promis, et puis d'ailleurs qui n'avait même pas à vous être promis, parce que c'est comme ça, c'est le fonctionnement de la PAC. Est-ce que c'est de nature à faire repartir la crise agricole dans les jours, dans les semaines qui viennent, Anthony Ménard? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, moi, j'utiliserais pas le mot repartir, parce que je pense que cette crise, elle s'est jamais interrompue. En tout cas, nous, dans notre département, c'est toujours comme ça qu'on l'a exprimé, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'action, un temps de manifestation, il y a eu un temps de travail, parce que forcément que quand aujourd'hui vous demandez un certain nombre de choses, eh bien vous devez vous mettre autour d'une table et discuter. Mais du coup, aujourd'hui, après ce temps de travail, il y a un certain nombre de sujets, dont le sujet qu'on vient d'évoquer, qui nous font dire oui, que peut-être il va falloir repasser par une certaine forme d'action. J'entendais dans votre journal que dans l'ouest, dans le sud-ouest de la France, il repartait en action.
On va assiéger la trésorerie. Voilà, on va aller assiéger à Toulouse la trésorerie, celle qui verse les fameuses aides de la PAC. Hein, effectivement, c'était dans le journal de 7 heures d'Europe 1. Alors, il se trouve quand même, et on l'avait dit lors des semaines un peu chaudes il y a quelques semaines de cela, lorsque dans de la, cette phase d'occupation, notamment des autoroutes, Anthony Ménard. Oui, mais tout ça prend du temps, ça doit passer par Bruxelles, notamment il y a tout un tas de réglementations, ça va prendre du temps avant que ce soit assoupli. Il se trouve que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, Anthony Ménard, mais je pense que oui, Bruxelles, vendredi, donc la Commission européenne a proposé vraiment d'édulcorer toutes ces réglementations vertes qui pèsent sur votre quotidien d'agriculteur. Ça va dans le bon sens malgré tout, vous pensez ?
Oui, dit comme ça, ça va dans le bon sens. Ce qui est inquiétant, c'est que Bruxelles va plus vite que la France sur les sujets de simplification. Donc là-dessus, il y a sûrement des leçons à en tirer. Moi, je pense que entre les annonces qu'on a eues, qui étaient pour une partie avec du sens, et aujourd'hui le travail qu'on a, y a un vrai fossé entre les déclarations des politiques et les actes sur nos exploitations.
Merci beaucoup Anthony Ménard. En tout cas, on va suivre la situation qui semble se raidir à nouveau. Enfin, quoi qu'elle ne s'est jamais détendue, si je vous ai bien compris. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FDSEA du Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, c'est-à-dire autour d'Angers. Merci à vous. Bonne journée Anthony Ménard.
Il est 7h19 sur Europe 1 dans 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
Quel jour allons-nous revivre ce matin ?
Il y a 10 ans, le 18 mars 2014, lorsque la Crimée a été annexée par la Russie.
Allez, à tout de suite, l'édito écho sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Alors Nicolas, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le lancement d'une consultation publique concernant la stratégie énergie et climat de la France.
Ouais, cette consultation sera organisée par la Commission nationale du débat public. Hein. C'est une commission qui peut être saisie par le gouvernement pour, soi-disant, prendre en compte l'avis des citoyens. Alors, j'ai moi-même eu affaire à elle, hein, par le passé, pour défendre des projets d'infrastructure. Elle est en général composée essentiellement d'écologistes décroissants et d'activistes, évidemment pas par des gens qui travaillent, hein, et qui, par définition, n'ont pas le temps de s'y rendre. J'ai donc considéré, quand j'y étais, que cette instance était souvent biaisée. Cette saisine est d'autant moins compréhensible qu'elle succède à une convention citoyenne pour le climat, qui a d'ailleurs été en partie un ratage, hein, on s'en souvient, puisque là encore, un grand nombre de propositions étaient très orientées dans le sens d'une écologie radicale qui, en fait, ne semble pas souhaitée par une majorité de nos concitoyens. C'est souvent le problème, hein, de ces tentatives de démocratie participative. D'ailleurs, si on veut savoir ce que pensent les Français sur ces sujets, il y a pléthore d'études d'opinion. On sait, par exemple, qu'environ 75% de nos concitoyens sont favorables au nucléaire. J'ajouterais que le sujet du mix énergétique est technique et qu'il doit concerner des experts, hein, qui doivent dialoguer directement avec les élus et le gouvernement.
Mais alors justement, que cherche l'exécutif, pensez-vous, Nicolas, avec ce nouveau grand débat sur l'énergie ?
Ah bah on a surtout l'impression qu'il cherche à gagner du temps et à ne pas décider, hein, la stratégie énergétique du pays. Cécile Maisonneuve, qui est l'une des meilleures spécialistes françaises de ces questions, explique que derrière cette procrastination, il y a deux loups. D'abord, EDF a du retard dans ses investissements dans les énergies décarbonées. L'entreprise ne produit déjà pas énormément aujourd'hui. Elle n'est a fortiori pas capable de s'engager sur un niveau de production à venir qui sera compatible avec une demande d'électricité qui va exploser, hein, avec les nouveaux usages comme la voiture électrique par exemple ou les pompes à chaleur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'État et EDF, qui souffrent d'une dette abyssale, manquent de solutions de financement. Par exemple, le coût des 6 EPR, les nouvelles centrales nucléaires, les EPR2, ces 6 nouvelles centrales nucléaires, leur coût tournera autour de 60 milliards d'euros avec une mise en service à la fin de la décennie 2030. C'est beaucoup d'argent, mais cette technologie dite des EPR2 n'est pas encore stabilisée et on sait qu'il y aura des surcoûts. En fait, il y en a déjà. Et en plus, il faudra investir pour augmenter l'offre d'électricité d'ici là. Et voilà, hein, on touche du doigt, Dimitri, l'impuissance due à notre endettement.
Donc cette nouvelle consultation que veut le Premier ministre, c'est une manière de refuser de décider en quelque sorte ?
Ouais, j'en ai bien peur, hein. Il s'agit de gagner du temps en cachant aux Français nos difficultés. Le problème, c'est que c'est infantilisant et sur le plan énergétique, bien évidemment, ça ne sert à rien.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. Il est 7h22.
À demain. Europe 1.
Ah, la réélection de Vladimir Poutine, la crise agricole, les attaques sur des commissariats hier soir, l'actualité, on en parle toute la journée sur Europe 1.
Oui, de 18h à 19h, si vous voulez faire le point sur toute l'actualité de la journée, eh bien vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari et ses invités qui débattent, qui analysent, qui décryptent toute l'actualité de la journée. C'est Punchline, c'est du lundi au jeudi, de 18h à 19h sur Europe 1.
Et en attendant, c'est l'heure du journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamar.
J'aimerais que la France fasse quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. Tout n'est pas perdu. Les mots de Vladimir Poutine, président sortant réélu pour 6 ans à la tête de la Russie. Le chef du Kremlin qui met en garde Emmanuel Macron. Des militaires de l'OTAN sont déjà en Ukraine, dit-il. Nous le savons, nous entendons parler français et anglais sur place. Retour au calme à La Courneuve où des renforts policiers sont déployés après les violents incidents de la nuit. Plusieurs dizaines de jeunes ont attaqué le commissariat avec des mortiers d'artifice. 6 personnes ont été interpellées. Le PSG net vainqueur de Montpellier hier soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1 de football. Victoire 6-2 avec un triplé de Kylian Mbappé.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Il y a 10 ans, jour pour jour, le 18 mars 2014, 2 jours après un référendum local qui n'avait pas été reconnu par l'immense majorité des nations, Vladimir Poutine signe à Moscou l'acte d'incorporation de la Crimée à la Fédération de Russie. L'Ukraine, indépendante depuis 1991, perd en à peine 2 semaines l'Inde d'Autriche, un territoire hautement stratégique et symbolique.
Oui, tout bascule en quelques jours. La Crimée, qui est une petite république autonome, est la seule région du pays où les Russes sont majoritaires. Sur les panneaux publicitaires à l'époque, les pro-ukrainiens sont présentés comme des envahisseurs dont il faudrait stopper l'invasion. Et certains pro-ukrainiens sont forcés à manifester pour soutenir la Russie.
Mon directeur est venu me voir. C'était comme s'il me forçait la main. Et après, j'ai reçu un coup de fil. On m'a dit, soit tu y vas, soit t'es viré. Ils sont venus chercher tout le monde en bus. Ils avaient des listes, donc ils ont vérifié qui était là.
Le 11 mars 2014, donc, le Parlement de Crimée adopte une déclaration d'indépendance à l'égard de l'Ukraine. Et écoutez ce proche de Vladimir Poutine, Alexei Pouchkov, qui est ce jour-là l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il qualifie le gouvernement ukrainien de néo-nazi, terme utilisé aussi depuis 2 ans par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine.
Il y a des formations paramilitaires qui patrouillent les rues de Kiev avec des signes de SS sur les manches. Il y a les gens qui appartiennent à des tendances extrêmement nationaliste, même pro-nazi.
Les gens de Crimée ont peur, dit-il, et si l'armée russe est présente, c'est pour les aider. Mais beaucoup d'habitants fuient alors vers la capitale de l'Ukraine, Kiev.
C'est le dernier billet pour Kiev. Il n'y a plus rien. Beaucoup de gens veulent partir.
Ça nous fait peur ce qui se passe. C'est terrifiant. On ne sait pas comment ça va tourner après le référendum. Les gens essaient par tous les moyens de s'échapper.
Dans un référendum contesté, organisé quelques jours plus tard, 96% des votants se disent favorable à cette annexion que Vladimir Poutine présente comme un rattachement naturel à la mère patrie.
Nous ne chercherons jamais la confrontation avec nos partenaires, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Nous ferons tout pour bâtir des relations civilisées et de bon voisinage, comme cela doit se faire.
Les Occidentaux annoncent immédiatement des sanctions. La Crimée est officiellement rattachée à la Russie le 18 mars 2014. Tout s'est finalement joué en moins de 3 semaines.
Merci Laure d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Nous sommes lundi et qui dit nouvelle semaine dit Dimitri,
nouveau cadeau
et toute cette semaine Europe 1 vous envoie en croisière. Et quelle croisière hein, vous partez avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne et de la Dordogne à la découverte des trésors vinicoles du sud-ouest. Quel beau programme, Blaye, Libourne, Saint-Émilion, tout est compris à bord. Cuisine raffinée, boissons, animation, plus les visites guidées, les excursions à terre, c'est un très beau séjour qui vous attend. Vous avez déjà les infos sur croisiEurope.com et félicitations, tiens, à Patrick qui écoute Europe 1 à Paris. Patrick remporte son week-end d'hôtel casino par touche. Patrick est un fidèle d'Europe 1. Il ne manque jamais l'interview politique de Sonia Mabrouk et Sophie et les copains avec Sophie Davant tous les après-midi de 16h à 18h.
Patrick a du goût. La question du jour, la voici. En quelle année l'Ukraine a-t-elle déclaré son indépendance? En 1991 ou bien 1995?
Pour tenter votre chance, vous envoyez croisiEurope au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour. Et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Éric Zemmour sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le président de Reconquête, hein, qui joue gros aux élections européennes. On pourra parler avec lui aussi de ce sondage secret commandé par les Républicains en décembre, révélé par l'Obs, qui prédisait qu'en cas de législative anticipée, les droites nationales pourraient emporter la majorité à l'Assemblée. Rendez-vous dans trois quarts d'heure.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Nous sommes le lundi 18 mars. Bon réveil à vous. À la une, cette information Europe 1 des écoles hors contrat avec l'éducation nationale dans le collimateur des services de renseignement. On va voir pourquoi dans un instant. Le commissariat de la ville de La Courneuve attaqué hier soir au tir de mortier, cocktail Molotov par une cinquantaine d'individus. Un policier est blessé. C'est une information Europe 1. Et puis personne ne réussira à nous faire peur. Les premières déclarations de Vladimir Poutine, tout juste réélu sans surprise, prise pour un cinquième mandat hier soir avec près de 88% des suffrages. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et tout d'abord, ce constat alarmant des services de renseignement, c'est une information Europe 1. Les adolescents très influençables se laissent non seulement de plus en plus bernés par les théories complotistes et dérives sectaires qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais ils en sont aussi victimes dans les écoles hors contrat qui se multiplient en France et prodiguent des enseignements douteux, Jean-Baptiste Marty.
De plus en plus d'enfants sont retirés des établissements relevant de l'éducation nationale. 120 nouvelles écoles hors contrat se créent chaque année. Il y en a aujourd'hui 2500 en France. 100 000 élèves y sont scolarisés. Les mineurs vulnérables avec des difficultés scolaires ou médicales sont les plus concernés selon leurs renseignements, ce qui aggrave leurs lacunes. Par exemple, un enfant de 11 ans scolarisé dans une école située dans la Meuse hors contrat et revendiquant un enseignement alternatif ne savait pas lire lors de son passage au collège. Autre phénomène, de plus en plus de mineurs subissent les pratiques et théories idéologiques de certains adultes appartenant à des mouvements comme les Témoins de Jéhovah. La vaccination y est notamment interdite, mettant en danger les mineurs concernés selon les autorités. Un foyer épidémique de rougeole s'est par exemple développé il y a quelques années dans une école de Colmar hors contrat. Alors ces pratiques fragilisent le développement et l'insertion de certains enfants dans la société avec une remise en cause de la vie démocratique et des institutions françaises.
Jean-Baptiste Marty. Et autre information Europe 1, on apprend ce matin qu'un policier a été blessé la nuit dernière lors de l'attaque au mortier du commissariat de La Courneuve. Une cinquantaine d'individus ont aussi incendié des poubelles et volé un semi-remorque utilisé pour bloquer une rue. 6 personnes interpellées avant un retour à la normale vers minuit selon la police. Plus de précisions à 8h sur Europe 1 avec un responsable du syndicat Alliance Police Nationale.
L'émotion est encore vive ce matin au collège Édouard Herriot de Chenauve près de Dijon. La ministre de l'Éducation nationale est attendu sur place à 10h.
Vendredi, un adolescent de 15 ans armé d'un couteau a menacé sa professeure d'anglais, la principale et un agent d'entretien avant d'être interpellé. Il avait sur lui une lettre faisant référence aux attentats du 13 novembre et annonçant une prise d'otage. En détention provisoire depuis hier soir, il a donné plusieurs versions aux enquêteurs. Il a notamment affirmé avoir été contacté par des connaissances pour tuer la principale. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat est ouverte.
Il est 7h34 sur Europe 1. Vladimir Poutine réélu sans surprise pour un cinquième mandat à la tête du Kremlin.
Avec 87,9% des suffrages, Vladimir Poutine est ivre de pouvoir et fait tout pour gouverner éternellement, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De leur côté, Londres et Berlin dénoncent des élections qui n'étaient ni libres ni équitables, mais que les exilés russes ont tout de même suivi avec une grande attention et ils ont manifesté à Paris hier contre le régime autoritaire de Vladimir Poutine. Le reportage de Wilfried De Villers pour Europe 1.
Ouliana est militante anti-Poutine, elle a fui la Russie au début de la guerre en Ukraine. Derrière ses lunettes noires, son regard s'assombrit quand elle pense à l'avenir.
Pour le moment, j'ai pas d'espoir. Il me semble que tout est détruit. Et pour être libre là en Russie, il faut vraiment changer le système et ça va prendre des siècles. Quoi.
La jeune femme n'a pas vu ses parents depuis 2 ans. Un éloignement douloureux pour Kosma également. Cet activiste sait qu'il ne peut plus rentrer au pays pour l'instant.
Poutine président, c'est impossible de rentrer à la Russie. C'est l'arrêt directement à l'aéroport. C'est 20 ans. en prison pour l'activisme anti-guerre.
À cause de son travail de journaliste critique du Kremlin, Denis, lui, a été déclaré agent de l'étranger par Moscou. Il continue tout de même à se battre depuis la France.
Il faut continuer à travailler pour combattre la propagande. Alexei Navalny a déjà laissé message avant sa mort. N'abandonnez pas. C'est pourquoi j'ai commencé la nouvelle page ici en France. Je suis utile ici en tant que journaliste.
Denis n'est pas allé voter hier à l'ambassade de Russie par peur d'être arrêté et renvoyé à Moscou où il risque la prison.
Wilfried de Villers.
La colère toujours très vive chez les agriculteurs. Hein. Le point d'étape qui était prévu demain à l'Elysée entre Emmanuel Macron et la FNSEA est reporté à une date ultérieure.
Et cette question ce matin, va-t-on vers un acte 2 des manifestations agricoles? En tous les cas, une mobilisation est prévue ce matin à Toulouse. Venue de toute l'Occitanie, les agriculteurs comptent réclamer les aides promises par Gabriel Attal il y a un mois et protester contre les contrôles des exploitations. Pour afficher leur colère, ils comptent aussi tracer des lignes rouges devant leur ferme. Le reportage de Charles Lhuillier pour Europe 1.
Dans ce petit village, les panneaux sont toujours retournés. Mais la nouveauté ici, ce sont ces lignes rouges qui fleurissent devant les exploitations.
Cette ligne rouge, c'est pour dire que les exploitations, c'est chez nous.
Nicolas, céréalier, se dit harcelé par les agents en tout genre. Cette ligne tracée à la bombe, c'est pour leur dire qu'ils ne sont plus les bienvenus.
Le département, l'inspection du travail, après il y a des agents de l'État. Quand ils viennent, c'est comme un gendarme, donc ça n'arrête pas du printemps à l'hiver.
Eric, lui, est vigneron.
Tous ces gens-là qui veulent rien comprendre à rien, qui sont dans leur monde, toutes ces contraintes, ces taxes sur l'eau, ça n'arrête pas.
Des taxes, des contrôles qui, selon Eric, sont directement responsables de ses dettes. Sa ligne rouge est donc là pour alerter sur ses problèmes de trésorerie.
Les dettes, c'est 150 000 euros. C'est... Je me suiciderai pas de ça, je me le suis promis.
Une détresse qui va bien au-delà d'une simple ligne tracée sur le sol. Si les promesses gouvernementales ne se traduisent pas concrètement, ces agriculteurs envisagent à nouveau de passer à la vitesse supérieure. À Montesquieu, Charles Lhuillier, Europe 1.
Cette question à présent sur Europe 1, zéro voiture thermique en 2035, est-ce vraiment possible?
Cet objectif de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone est de plus en plus remis en question par les constructeurs automobiles. Après le patron de Stellantis, Carlos Tavares, c'est celui de Renault, Luca De Meo, qui doute du tout électrique en 2035, plaidant pour un report de quelques années. Aurélien Fleureau, le moteur thermique n'a donc pas dit son dernier mot.
La marche arrière n'est pas encore enclenchée, mais de plus en plus d'arguments donnent à la clause de revoyure de 2026 un air de tournant décisif. D'autant plus que les premiers doutes apparaissent au grand jour chez les constructeurs allemands. Volkswagen repousse la construction d'une gigafactory de batteries. Mercedes explique finalement garder le thermique plus longtemps que prévu. Rien de surprenant selon Bertrand Racoteau, en charge de l'automobile au cabinet de Kurt Carlyle.
Les signaux qui annonçaient en fait ces difficultés sont de plus en plus importants et donc on s'attend à ce que 2035 soit reporté et puis les constructeurs continuent à produire d'autres technologies.
À commencer par l'hybride, puisque l'évolution du marché automobile est avant tout dictée par les clients, souvent échaudés par le prix du 100% électrique, note l'économiste Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM.
Si les bonus continuent de baisser, cela a aussi un impact sur les automobilistes parce que les voitures électriques coûtent très cher et beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a des automobilistes qui sont dans le brouillard.
Un brouillard qui pourrait bien s'épaissir pendant quelques années, le temps que les progrès technologiques des batteries soient réels pour faire baisser les prix et le temps de charge des voitures.
Aurélien Fleureau. Et puis félicitations au Puy du Fou. Le parc vendéen, connu pour ses fresques médiévales, a reçu samedi soir à Los Angeles un T-Classic Award. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu un Oscar pour les parcs à thème. Et donc il a reçu le titre du meilleur spectacle au monde pour le mime et l'étoile. C'est une histoire d'amour entre un artiste de cirque et une danseuse de la belle époque, à découvrir donc au Puy du Fou en ce moment.
Voilà, 20 millions d'euros d'investissement quand même pour ce seul spectacle et ce n'est qu'un parmi d'autres au Puy du Fou, vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup Nina Pavon, c'était votre journal. Et dans un instant sur Europe 1, l'édito international, vous vous attendiez à la Russie et Vladimir Poutine, et bien ce sera l'Égypte ce matin, puisque l'Union Européenne a signé hier un partenariat à plusieurs milliards d'euros pour que le Caire joue le rôle de verrou migratoire. On voit ça avec Vincent Hervouette dans 3 minutes.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h42 sur Europe 1. Très bon début de journée, bon début de semaine. Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Où en est-il, le patron de LFI? On va voir ça. Le club culture d'Europe 1 matin, le lundi, c'est série avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous parle de The Gentleman, la nouvelle série de Guy Ritchie,
qui est très fameuse.
Le livre du jour également, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, je vous parle d'un bon roman de Jonathan Coe.
Allez, à tout de suite.
Semaine, c'est bien.
Oui, absolument. L'édito international sur Europe 1. Non, je pense au Royaume-Uni de Jonathan Coe. Bonjour Vincent B. Alors, vous n'avez pas à nous parler du Royaume-Uni ce matin. Vous ne voulez pas nous parler de la Russie non plus, Vincent?
Mais ça n'intéresse personne. Ah, vous ne croyez pas l'auditeur, ça... Ça intéresse personne sauf l'intéressé.
Oui.
Hein? Alors, il n'y a aucune surprise.
Oui.
Sauf quand même la file d'attente devant l'ambassade de Russie à Paris, qui s'est tirée sur 600 mètres. Il fallait patienter 4 heures pour voter hier. Les fonctionnaires n'avaient pas anticipé la participation de ceux qui ont fui la guerre. Les Russes de la diaspora ont ainsi pu replonger à pieds joints dans le passé, le souvenir lancinant des files d'attente devant les bureaucrates incapables, et puis les élections jouées d'avance, mais auxquelles le parti tenait tant. En dehors de cet embouteillage donc, aucune surprise, sauf peut-être le score misérable du candidat communiste, c'est un détail, tout comme le plébiscite en Crimée, 10 ans jour pour jour après l'annexion, l'anniversaire méritait bien une participation massive, surtout que les caméras couplées à la reconnaissance faciale ont de quoi stimuler le sens civique de chacun. Vladimir Poutine croit ainsi consolider son pouvoir sans partage, tous les despotes font le même pari. Plus de la moitié de l'humanité est appelée aux urnes cette année et dans la plupart des pays, comme en Russie, l'élection ne sert qu'à légitimer le régime, tant qu'à commenter un événement qui n'en est pas un, qui est programmé de longue date, qui s'est déroulé comme prévu. Il vaudrait mieux parler de l'Égypte ce matin, où le maréchal Sissi a obtenu un score pharaonique à Noël. Vous vous rappelez, c'est 89%, mais il n'y a pas eu une brève. Ça n'a intéressé absolument personne en Europe. Mais l'Europe, justement, avait hier soir un rendez-vous au Caire qui conditionne son avenir bien davantage que l'élection Potemkine à Moscou.
Alors en effet, l'Union européenne a signé hier soir un partenariat stratégique global avec le Caire.
Ursula von der Leyen était en grand équipage, flanquée de 5 chefs d'État et de gouvernement comme autant de pages, notamment le président grec, son homologue chypriote et Mélanie l'italienne, représentant les 3 pays partenaires de l'Égypte pour exploiter les champs de gaz découverts en Méditerranée. Et il faudra du gaz égyptien pour fermer le robinet de gaz russe. C'est encore 15% de nos importations, le russe, hein, il transite par l'Ukraine. On peine d'ailleurs toujours à réaliser que les Ukrainiens se servent au passage, hein, touchent un pourcentage. Et pour le reste, les Européens complètent avec du gaz de schiste américain, qui est pas du tout écolo. C'est décidément, le gaz n'a pas d'odeur, mais il y a encore plus hypocrite dans l'accord qui a été signé hier soir.
Alors, accord d'abord à 7 milliards 400 millions d'euros, alors que l'Égypte traverse la pire crise économique de son histoire.
Alors, 7 milliards à comparer aux 35 milliards versés par les Émirats et aux 165 milliards que l'Égypte va verser cette année pour le service de sa dette. Avec 200 millions dans ces 7 milliards, il y a 200 millions qui vont servir de garde-frontière. Ça n'a rien à voir avec Gaza et la bataille en cours de l'autre côté de Rafah, mais l'Europe compte sur le maréchal Sissi pour stopper les Africains qui veulent gagner l'Europe et pour qu'ils reprennent les Égyptiens qui seront allés au bout du voyage, qui auront survécu au désert, aux raquettes en Libye, aux passeurs en Méditerranée. L'an dernier, Frontex a compté 150 000 migrants égyptiens arrivant par cette route qui est la plus dangereuse, moitié plus que l'année précédente. Et ce qui est admirable, c'est que l'Europe interdisent à Frontex de refouler les clandestins qui se présentent aux frontières, mais qu'elle compte sur l'Égypte, 136e pays sur 142 au classement mondial de l'état de droit, pour le faire. C'est un peu comme les normes kafkaïennes imposées aux paysans européens qui obligent in fine à importer ce qui est produit ailleurs sans aucun contrôle. La pistache sur le gâteau, la cerise sur le baklava, c'est que l'Europe recommande aux gardes-côtes égyptiens auxquels elle va fournir des bateaux une approche basé sur les droits, orienté vers la protection et sensible au genre. Du haut des pyramides, 5000 ans contemplent notre hypocrisie.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent,
7h47. 7h, 9h, Europe 1 matin.
Nicolas Caro, ce matin, le livre du jour. Le roman, le dernier Jonathan Coe.
L'un des écrivains britanniques préférés des Français, lui-même est très francophile d'ailleurs. Le Royaume des Unis sort au format poche. Alors, c'est pas toujours le cas avec Jonathan Coe. Mais là, on comprend que c'est un roman politique, un peu comme l'avant-dernier, Le cœur de l'Angleterre, plus centré sur le Brexit, que Jonathan Coe n'a toujours pas digéré. Il s'intéresse à l'histoire du Royaume-Uni. Mais ça commence Je vous dis pas la date. Vous allez deviner, on suit Lorna, elle travaille à l'accueil d'une société en Angleterre, mais ce que ses collègues ne savent pas, c'est qu'elle est aussi une grande contrebassiste. Et de ce côté-là, ça commence à décoller. Elle a enregistré un album, et au début du roman, elle arrive en Autriche pour une série de concerts, puis ce sera en Allemagne. C'est Suzanne qui vient la chercher à l'aéroport de Vienne, et premier problème, il faut rentrer la contrebasse dans la voiture. C'est une Volvo Break, donc ça devrait aller. Oui, mais le coffre est encombré de dizaines de paquets de rouleaux de papier toilette, ça c'est un indice pour la date.
Ah, je dirais le confinement.
Exactement. Avec la parano sur la pénurie de pâtes, etc. Jonathan Coe est très très drôle sur le sujet, mais donc ce qui est moins drôle, c'est que Lorna a peur que ses concerts soient annulés. Elle va passer tout juste entre les gouttes, et ensuite fermeture des salles de spectacle, etc. Je vous fais pas un dessin, on se souvient. Ça c'est le premier chapitre. Ensuite, flashback, 8 mai 45, et chaque chapitre suivant est un grand événement. Couronnement de la reine, finale de la Coupe du Monde 66, Angleterre-Allemagne, mariage de Charles, mort de Diana, etc.
Bon, c'est un livre d'histoire.
C'est un roman. On suit l'histoire d'une famille. On a l'arbre généalogique au début. Une histoire qui commence à Bourneville, là où on fabrique le chocolat Cadbury. En 45, il y a la Marie, la future grand-mère de Lorna. Justement, elle rencontre Geoffrey Lamb. Ils se marieront, auront des enfants et on suit leur histoire dans le décor de la grande histoire de l'Angleterre. En cette étape, sept chapitres qui dessinent leur destin et celui du Royaume-Uni, ou plutôt donc du Royaume désuni, jusqu'à Boris Johnson. Un roman sur le temps qui passe aussi. Du pur et du grand Jonathan Coe.
Le Royaume des Unis, Jonathan Coe, donc c'est chez Folio, Nicolas Caro. Merci Nicolas. Héloïse Goua, la série de la semaine. Votre conseil du jour, c'est la nouvelle série de Guy Ritchie.
Bienvenue dans la jungle.
Eh ben oui, en ce lundi matin, je vous propose un petit tour dans une jungle peuplée de ducs en tweed et de criminels armés jusqu'aux dents. C'est ce qu'on retrouve dans The Gentleman, la nouvelle série ébouriffante, drôle et élégante du réalisateur britannique qui mélange les genres comme personne. Ce titre, The Gentleman, vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit d'abord d'un très bon film de Guy Ritchie avec Hugh Grant et Matthew McConaughey.
Mais alors, la série raconte la même histoire que le film ?
Eh bien, on retrouve l'univers de gangsters en costume sur mesure, mais l'intrigue est différente, les acteurs aussi. C'est donc un spin-off, pas besoin d'avoir vu le film pour voir la série. Le premier épisode commence avec la mort d'un duc britannique argenté. Dans la tradition, c'est bien sûr au fils aîné que reviennent la plupart des biens, mais il faut croire que les traditions sont parfois faites pour être bousculées.
On m'a poignardé le cœur ! On m'a fait mordre la poussière ! C'est un complot de vipères !
Ça, c'est la colère de Freddy, le frère aîné vexé d'être déshérité. C'est donc Eddie, le cadet, qui devient le duc de Halstead. Mais il hérite aussi d'autres petits cadeaux beaucoup moins réjouissants.
Freddy, l'entreprise est très proche de la faillite. On a le toit du manoir qui fuit, le personnel se révolte. Et toi, t'es un petit con qui sniffe de la coke.
Voilà, et c'est notamment à cause de ce frère toxico qu'Eddie se retrouve englué dans un réseau criminel féroce. C'est le début d'aventures rocambolesques, plus improbables et hilarantes les unes que les autres. Dans cette série, les verres de bourbon boisés et le langage châtié côtoient l'hémoglobine qui gicle, les fusillades à gogo et des grossièretés indicibles. Tout ça, toutes ces aventures fusent à un rythme effréné sur fond de musique jazz ou classique. La réalisation est magnifique, hein, beaucoup de plans séquences, des images d'archives, je ne sais pas vous, mais c'est à peu près tout ce que je demande à une bonne série d'action.
The Gentleman, donc, signé Guy Ritchie. Les 8 épisodes sont à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Merci beaucoup, les amis. Ce fut un plaisir. À demain. Dans un instant, l'édito politique sur Europe 1, juste après le journal permanent. Nina Pavan.
Information Europe 1, un policier a été blessé la nuit dernière lors de l'attaque au mortier du commissariat de la Courneuve. 9 personnes ont été interpellées. Le procès du violeur de Tinder s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle de Paris. Accusé par 17 femmes de violences sexuelles, il conteste les faits et prétend avoir seulement, je cite, « usé de son métier de photographe pour attirer des femmes et assouvir une addiction au sexe ». Au terme d'un scrutin sans suspense, Vladimir Poutine réélu pour un 5e mandat à la tête du Kremlin avec 87,9% des suffrages. À Gaza, Tsahal bombarde depuis ce matin l'hôpital d'Al-Shifa qui abriterait, selon les informations de l'armée israélienne, des hauts gradés du Hamas.
7h, 9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Céline, bonjour
Vincent.
À tous.
Vincent, ce week-end, les Insoumis ont lancé leur campagne des élections européennes avec un grand meeting samedi à Villepinte. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon oscille pour l'heure autour de 8% d'intention de vote. Vous diriez que les Insoumis sont une force sur le déclin.
Je dirais plutôt que si Jean-Luc Mélenchon était touché, il n'est certainement pas coulé. Le discours qu'il a tenu pendant une grosse demi-heure samedi n'était pas celui d'un pré-retraité, mais bien d'un candidat pour 2027. On y a retrouvé tous les ingrédients qui ont fait le succès du mélenchonisme, la rhétorique woke, recyclé dans la défense du Sud global, l'antisionisme dans l'éloge de la paix, le marxisme dans la défense des dominés. Reprenant la recette qui lui a reçu aux législatives, qui lui a réussi aux législatives avec le slogan « Élisez-moi à Matignon », il a fait du scrutin du 9 juin le premier tour de la présidentielle, avec un appel aux cités populaires à la France créolisée à s'inscrire sur les listes pour les élections. Pour ceux qui en doutaient encore, Jean-Luc Mélenchon veut faire des millions de Français issus de l'immigration arabo-musulmane son armée de réserve électorale. Il habille tout cela de références historiques ronflantes, de critiques obsessionnelles d'Israël et de progressisme sociétal acharné. Mais son projet, c'est Robespierre non-binaire et en kéfier.
Alors il a aussi volontiers joué la victime face à un système qui voudrait le mettre à terre, Vincent.
À l'entendre, tout le monde lui en veut. Les juges qui l'ont perquisitionné, les sondages qui l'ont volontairement dévalué, les journalistes qui l'ont calomnié. Monsieur Mélenchon oublie qu'il bénéficie du soutien actif de forces institutionnelles sur lesquelles repose ce que Mathieu Bock-Côté appelle le régime. À Sciences Po, 55% des étudiants votent Mélenchon, et il en va de même dans nombre d'universités. Alain Finkielkraut ne pourrait pas mettre les pieds à Normal Sup, mais les intellectuels de la gauche radicale y sont comme chez eux. Dernièrement, on en avait parlé ici. Judith Butler, qui nie à la fois la différence des sexes et la dimension terroriste des crimes du Hamas, y a été reçue rue d'Ulm avec les honneurs. Les milieux culturels s'enivrent des luttes intersectionnelles de la gauche radicale. Des comédiens affichent sans complexe leur soutien à Mélenchon, tout comme Annie Ernaux, notre prix Nobel de littérature. Si on faisait un sondage dans la magistrature ou dans l'audiovisuel public, la France insoumise y ferait certainement un score supérieur à celui qu'il obtient aux élections. Le gauchisme culturel dont Jean-Luc Mélenchon est l'expression politique la plus aboutie continue de donner le tempo de la vie publique. Alors le diable s'habille en paria, mais l'insoumis est subventionné par l'État et remboursé par la Sécurité sociale.
Alors pour le moment, dans les sondages, Vincent, la liste de Raphaël Glucksmann devance celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que la gauche modérée est une menace pour les insoumis?
Cette menace est réelle, d'autant qu'une large partie du centre-gauche qui a voté pour Emmanuel Macron deux fois est désormais vaccinée et cherche un candidat de substitution. Mais dans cette bataille pour le leadership à gauche, l'insoumis en chef peut compter sur un allié de poids en la personne du président de la République. Comme Emmanuel Macron a choisi de faire système avec Marine Le Pen pour broyer la droite classique, il a volontairement créé une tenaille avec Jean-Luc Mélenchon pour faire disparaître la gauche social-démocrate. La configuration idéale pour le président, c'est de se trouver à distance égale entre les deux périls qu'il a soigneusement entretenus. Emmanuel Macron ne veut que Mélenchon, Le Pen et lui. Cette stratégie cynique lui a permis d'être élu dans un fauteuil, mais c'est une stratégie très dangereuse, d'abord parce qu'elle transforme le débat politique en pugilat grossier et stérile, mais surtout parce qu'en 2027, le chef de l'État ne sera plus là et qu'il laissera comme unique force d'alternance Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trévollet de Villers. La Une du Figaro consacrée ce matin à Vladimir Poutine, le pouvoir absolu qui inquiète l'Occident. Et si vous voulez voir Olivier Véran en train de boxer, eh bien il y a une photo, pleine page et un grand papier qui lui est consacré dans le Figaro ce matin. Merci.
Oui, il prépare sa droite,
voilà,
sa gauche
gauche bobo, on pourrait même dire. Oui, voilà. Merci Vincent Trévollet.
Il est 7h56 sur Europe 1, très bon début de journée. Nous sommes le lundi 18 mars.
Et nous fêtons Saint Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem au 4e siècle, dans ce siècle troublé par les querelles entre ariens et orthodoxes. Saint Cyril de Jérusalem, par ailleurs, docteur de l'Église. Bon réveil avec Europe 1. Ne manquez pas Philippe Val, exceptionnel, tout à l'heure à 8h30. Ce sera juste après l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, le président de Reconquête Éric Zemmour, face à Sonia Mabrouk. Nous sommes le lundi 18 mars, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, Vladimir Poutine réélu dans un fauteuil en Russie. Victoire sans surprise avec près de 88% des suffrages en sa faveur. Le maître du Kremlin sort-il réellement renforcé après ce scrutin? Décryptage dans un instant. Des scènes d'émeutes hier soir devant le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Des tirs de mortier, cocktail Molotov. 4 jours après la mort d'un jeune lors d'une course poursuite et un refus d'obtempérer. C'était mercredi dernier. Mais où sont donc les aides européennes? Beaucoup d'agriculteurs ne voient voit toujours rien venir. Après les promesses du Premier ministre Gabriel Attal, nouvelles actions aujourd'hui à Toulouse. Et puis un peu plus près des étoiles, quels sont les chefs qui brilleront au guide Michelin 2024? Réponse cet après-midi. Juste après ce journal 8h10, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Au programme, les scènes de chaos hier à la Courneuve, le mur de la dette en France qui ne cesse de monter et sans surprise, vous l'avez dit, un score de tsar pour Poutine.
Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Silence radio, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur la réélection de Vladimir Poutine. 88% des suffrages, l'adversaire de la France, comme l'a dépeint le chef de l'État, réalise son meilleur score et repart pour un cinquième mandat qui court jusqu'en 2030. Ce soir, le maître du Kremlin pourrait assister à un grand concert sur la Place Rouge pour fêter l'annexion de la Crimée en 2014 et sa réélection, bien sûr. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Beaucoup de pays considèrent que ce scrutin est une mascarade. La Pologne parle même d'élections illégales. Mais en interne, Vladimir Poutine sort-il renforcé de ce vote, Nicolas?
Alors en tout cas, c'est ce qu'il entend bien faire comprendre hein, aux Russes et au monde. Écoutez-le dans une brève adresse au pays hier soir.
Il nous запугает. Кто бы и никак, как бы не хотел нас подавить, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда.
Voilà ce que dit Vladimir Poutine, c'est que à ceux qui veulent nous faire peur et faire pression sur nous, ils n'ont pas réussi et ne réussiront jamais. Alors il s'adresse là aux Occidentaux, hein, sur l'Ukraine en particulier. C'est même une forme d'avertissement. Le Kremlin ne cédera rien. Bien au contraire, son score stalinien pourrait l'inciter à durcir ses positions avec un petit bémol hein, face à cette opposition qui hier avait trouvé un motif de satisfaction. Vous pourrez écouter sur Radio Svoboda cette opération de vote à midi qui a plutôt réussi. Les gens n'ont pas eu peur. Voilà une nouvelle forme de protestation, explique ce partisan du défunt Alexei Navalny. Et c'est vrai que c'était surprenant de voir toutes ces personnes qui faisaient la queue à midi. Alors Vladimir Poutine, s'il s'en tient à sa logique depuis 20 ans, devrait tout de même resserrer la vis, hein, si cela est possible. Et l'action-réaction étant en général bien ordonnée au Kremlin, les prochaines semaines seront à observer avec attention.
Merci beaucoup Nicolas Toneff. Dans son discours de victoire, Vladimir Poutine a également évoqué la France en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine. Je cite « Si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, c'est une astuce bien connue et largement utilisée. J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle, qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. » Fin de citation.
Et au Proche-Orient maintenant, Benjamin Netanyahou promet lui d'évacuer la population avant toute opération à Rafah, dans le sud de Gaza.
Et alors que les pourparlers en vue d'un éventuel cessez-le-feu doivent reprendre aujourd'hui au Qatar, l'armée israélienne bombarde de nouveau Gazaville. Dans son viseur, Ariane Ménage, l'hôpital Al-Shifa.
C'est une opération qui a été lancée au milieu de la nuit et elle est, semble-t-il, toujours en cours ce matin. À Gazaville, des témoins confient à l'agence France Presse avoir vu des dizaines de véhicules de l'armée israélienne entrer dans le quartier de l'hôpital. D'autres rapportent des tirs et des frappes aériennes à l'intérieur et autour de l'établissement. Plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa ne fonctionne plus qu'avec des équipes médicales extrêmement réduites. De son côté, l'armée israélienne insiste, il s'agit là d'une opération ciblée, selon son porte-parole.
Cela fait suite à des renseignements concrets qui appellent à une intervention immédiate. Nous savons que des terroristes haut gradés du Hamas se sont regroupés à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa et l'utilisent pour mener des attaques contre Israël.
L'armée israélienne annonce ce matin avoir arrêté environ 80 suspects. À ce stade, on ne dispose pas d'informations supplémentaires sur l'identité de ces haut gradés. Depuis le 7 octobre, Israël a fait de la traque des chefs du Hamas à Gaza l'un de ses objectifs de guerre.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Écoutez, c'était hier soir à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Des tirs de mortiers d'artifice, des jets de cocktails Molotov sur le commissariat de cette ville où vivait le jeune Wanis, 18 ans, tué mercredi dernier à Aubervilliers dans une collision avec un véhicule de police alors qu'il fuyait un contrôle. Hier soir, sur la cinquantaine d'individus cagoulés qui ont attaqué les forces de l'ordre, 9 ont été interpellés. Éric Henry, délégué national Alliance Police, salue le courage de ses collègues.
Nos collègues ont fait preuve d'un remarquable sang-froid, ont réussi rapidement à rétablir l'ordre public. De nombreux renforts sont venus évidemment sur place pour aider mes pauvres collègues qui étaient, je le répète, cantonnés à l'intérieur. On est vraiment des individus qui ont voulu tuer du flic. Un collègue blessé, au moment où je vous parle, Il faut absolument que cesse l'impunité, il faut absolument que cette violence désinhibée ne soit plus et que la justice passe fermement et que des sanctions soient données par l'autorité judiciaire de façon impitoyable. C'est l'autorité de l'État qui est en jeu. Ce qu'il faut, c'est une restauration de l'autorité de l'État.
Éric Henry au micro européen de Christophe Bordet. Scène d'émeute également à Marseille où 3 policiers ont été blessés, 10 de poubelles brûlées. Là encore, le nom de Wanis a été évoqué, mêlé aux habituels échauffourées qui marquent chaque année la fin du carnaval.
L'adolescent qui a agressé la principale du collège Édouard Herriot à Chenôve, près de Dijon, vendredi, a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire.
Il vient de passer sa première nuit en détention provisoire. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, se rend sur place ce matin pour assurer la communauté éducative de son soutien.
Et puis l'émotion toujours vive ce matin à Aunay-le-Château près de Rodez dans l'Aveyron après la mort d'un père de famille de 45 ans ce week-end sur un parking de supermarché.
Poignardé à mort sous les yeux de son fils de 13 ans, extrêmement choqué. Sa femme a elle aussi été blessée. L'assaillant, un homme ivre qui faisait des rodéos sur le parking du supermarché avec son fourgon. Il était âgé de 23 ans et il a été interpellé.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07.
La FNSEA n'ira pas à l'Elysée demain. Réunion reportée. Les conditions d'une sortie de crise ne sont pas réunies, dit Arnaud Rousseau, son président. Les agriculteurs veulent que toutes leurs revendications soient satisfaites. Or, pour le moment, le gouvernement peine à tenir ses engagements. Bonjour Charles Huillier.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Charles, vous êtes en direct de Toulouse, où les jeunes agriculteurs appellent à une manifestation ce matin pour réclamer le paiement des aides européennes, comme l'a promis Gabriel Attal.
Oui, des agriculteurs qui devraient arriver des quatre coins de la région. Une question se pose ce matin. Quelle sera l'ampleur de cette mobilisation? Pour l'heure, personne ne le sait. Les agriculteurs qui devraient se donner rendez-vous en milieu de matinée devant le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Une rencontre y est prévue avec la directrice de ce centre. Moment attendu fermement par Mathieu Maronès pour le syndicat des jeunes agriculteurs.
Le cours de nos productions chute, nos trésoreries sont dans le rouge et ces aides qui auraient dû arriver depuis des mois ne sont toujours pas là. L'État joue avec le feu parce que pendant ce temps-là, les contrôles continuent. Nous resterons mobilisés autant qu'il le faudra tant que toutes les annonces et les promesses faites il y a quelques semaines ne seront pas honorées.
Voilà, des agriculteurs qui, ici, dans la région, avaient déjà fait montre de leur colère depuis 2 semaines déjà en traçant des lignes rouges devant les exploitations. Désormais, à partir de ce matin, ils passent à la vitesse supérieure.
Merci beaucoup Charles Huillier en direct de Toulouse pour Europe 1. 8h08 sur Europe 1, vous vous souvenez de l'excellent Monsieur Septime, Louis de Funès, dans le film de Jacques Bénard.
Tourné, le grand restaurant.
Mais bien sûr, tourné au pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées, 3 étoiles au guide Michelin. Mais c'est aujourd'hui justement qu'on va découvrir les nouveaux étoilés, des étoiles comme s'il en pleuvait. 62 nouvelles vont être distribuées cet après-midi par le prestigieux guide Michelin. Consécration pour nombre de chefs, comme nous l'explique Olivier Pouls, le chroniqueur gastronomie d'Europe 1.
Économiquement, de toute façon, on sait très bien que c'est un gain de réservation, que c'est potentiellement des hausses de tarifs. C'est jackpot, hein. C'est un peu comme les Césars au cinéma. Il y a des gens qui font des très gros succès et qui n'ont jamais de César. Les comédies, par exemple, n'ont jamais de César et pourtant, ça remplit les salles. C'est un peu la même chose pour le guide Michelin. Vous avez des chefs qui sont reconnus par leur public. On pense à Yves Candebord, par exemple, qui a marqué de son empreinte une des générations de culinaires, qui n'a jamais été récompensé d'une étoile. Puis il y a des chefs pour qui c'est un objectif. Il y a eu d'autres concours, il y a de classements anglo-saxons, les 50 meilleurs, les 100 meilleurs, les ceci, les cela. Les étoiles Michelin, ça reste les étoiles Michelin.
Olivier Pouls avec Martin Lange.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. Éric Zemmour est face à Sonia Mabrouk.
7h-9h, Europe 1 matin.
Merci d'écouter Europe 1 tout de suite. Éric Zemmour est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Éric Zemmour.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Reconquête. Beaucoup de sujets dans l'actualité à vous soumettre. Mais tout d'abord Éric Zemmour, l'actualité, ce sont des scènes de chaos à la Courneuve où le commissariat a été ciblé par des tirs de mortiers et des cocktails Molotov dans la nuit. Des dizaines d'individus ont jeté des mortiers d'artifice et des projectiles. Tout se passe 4 jours après la mort d'un jeune à scooter lors d'un refus d'obtempérer. Qui a attaqué ce commissariat? Est-ce que ce sont des émeutiers comme on les appelle?
Moi, vous savez, vous dites c'est l'actualité, en même temps c'est la routine. Vous avez remarqué que ça arrive régulièrement dans tous ces quartiers que moi j'appelle islamisés. Parce que tout simplement, il y a une autre population qui a ses propres codes, ses propres mœurs, et qui ne supporte pas, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, parce que ne généralisons pas, qui ne supporte pas pour les plus jeunes d'entre eux la loi républicaine et la loi de la police. Et donc à chaque fois qu'il y a un choc entre ces jeunes gens, pour la plupart issus de l'immigration maghrébine ou africaine, et la police, eh ben ça signe mal, et que par malheur il y a un jeune homme qui meurt, et eh ben ça provoque des émeutes, etc. Comme si ils refusaient absolument la légitimité de la police. Parce que tout simplement, pour moi, ils refusent la légitimité de la République et de la France dans ces espaces-là. Pour eux, c'est leur territoire et ils doivent faire leur loi. C'est ça le choc que j'appelle un choc de civilisation sur notre sol.
Mais alors comment on fait ? Vous dites qu'ils refusent la loi de la République et la loi de la police. Quels ordres faut-il donner à la police dans ce genre de situation ? Et selon vous, d'ailleurs, est-ce que la police a ordre de ne pas réagir au contraire ? Il y a eu 9 interpellations.
Bien sûr, la police, moi j'ai discuté, vous savez, avec de nombreux policiers qui viennent spontanément me parler. Évidemment que la police a ordre de ne pas réagir. Évidemment que les autorités politiques, quelles qu'elles soient, d'ailleurs ça dure depuis des décennies.
Pourquoi ? Par crainte ?
Par crainte, bien sûr, d'émeutes encore plus grandes, par crainte de mort, par crainte de guerre civile, etc., etc. On sait que les pouvoirs publics et les politiques sont tétanisés par cela. Et d'ailleurs, les policiers en souffrent, car ils me disent tous que s'ils avaient des ordres vraiment d'un politique décidé, il pourrait enfin nettoyer tous ces quartiers des trafiquants de drogue et d'autres gens qui ne absolument respectent pas la loi.
Vous donneriez ces ordres quitte à provoquer ce que vous dites des émeutes, voire entre guillemets ce que vous dites une guerre.
Bah, vous savez, le problème c'est que moi d'abord je donnerais ces ordres effectivement, mais les émeutes on les a quand même. Vous avez remarqué. Donc autant imposer la loi de la République française. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. C'est le rôle de l'État.
Dans l'actualité, Éric Zemmour, sans surprise, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, est reconduit à la tête de la Russie. Pas de réaction d'Emmanuel Macron, silence radio. Et si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous auriez fait un communiqué, dont acte, ou alors un communiqué pour dénoncer ce qui ressemble à un simulacre
Savez, vous avez raison, sans surprise. Ça ne changera rien, on le savait avant, on le sait depuis. On peut dire deux choses en fait. Oui, effectivement, la Russie n'est pas, et ne le souhaite pas d'ailleurs manifestement, devenir une démocratie comme les nôtres. En tout cas, Vladimir Poutine ne le souhaite pas. Donc effectivement, c'est dans le cadre d'une élection à sa main. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le peuple russe est vent debout contre Poutine et qu'il veut le renverser ? Il ne me semble pas non plus, mais on n'en sait rien, personne n'en sait rien, ni vous ni moi. C'est un fait, moi je pense, et je vais vous dire, qu'on ne devrait pas se poser ces questions. Je pense qu'on devrait décider la politique étrangère de la France en fonction des seuls intérêts de la France.
Alors,
sans chercher à comprendre est-ce que ce régime est démocratique selon notre aune ou pas, ou est-ce que voilà, on peut se poser la question, intellectuellement on peut toujours, mais quand on est chef de l'État, non mais bien sûr, vous avez raison, je vous l'ai dit, mais je pense que nous devons nous décider et nous déterminer par rapport aux seuls intérêts de la France. Ce que faisait le général de Gaulle, ce que faisait d'ailleurs dans la grande tradition de la France, hein, c'est la stratégie, la réelle politique selon Richelieu. Je pense qu'il ne faut pas en sortir. On n'est pas dans les croisades face à un régime qui nous plairait pas. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans l'intervention d'Emmanuel Macron, j'imagine que vous voulez m'interroger là-dessus.
Alors justement, parce qu'il a de nouveau réaffirmé ses propos en disant ceci. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. Donc il maintient ses propos. D'abord, selon vous, pourquoi le dit-il ? Pourquoi le
Écoutez, moi je vais vous dire, je pense que Emmanuel Macron veut faire peur, non pas à Vladimir Poutine, mais aux Français.
Aujourd'hui, il a déjà fait le coup. Le président français qui fait peur ou le président russe ?
Non, le président français qui veut faire peur aux Français. Je pense que, si vous voulez, il a déjà fait le coup avec le Covid. Souvenez-vous, il faisait la guerre à un virus. Et puis après, il a fait le coup à partir de l'intervention le 24 février. Il est persuadé, et ça marche d'ailleurs, que les Français se resserrent autour du président de la République quand il y a un danger. Donc il fait peur. C'est une technique de gestion, si j'ose dire, de manipulation des masses.
Attendez, ça veut dire, Éric Zemmour, qu'à des fins politiques, le président est en train de parler d'une guerre qui nous concerne tous.
C'est ce que je pense.
Diversion politique.
Absolument. Et même politicienne, si vous voulez employer le mot. Maintenant, en plus, il faut bien comprendre qu'on peut parler de guerre tous les jours, si on veut, mais il faut avoir une armée digne de ce nom. Et nous avons d'excellents soldats, nous avons d'excellents matériels d'ailleurs, mais sur le mode échantillonesque. C'est-à-dire que je vais vous donner deux exemples très simples. Aujourd'hui, en Ukraine, on détruit à peu près 10 chars par jour. Nous en avons 200 en tout. Donc au bout de 3 semaines, on n'aurait plus de chars. Autre exemple, nous fabriquons 3000 obus par mois. Nous sommes arrivés à un stade où on était à 1000 obus. L'Ukraine utilise 5000 obus par jour, Sonia Mabrouk. Donc vous voyez, tout ça est dérisoire. Alors évidemment, il faut effectivement un grand plan de défense avec des investissements massifs pour réarmer notre pays, pour qu'il soit prêt à toutes les éventualités.
Pourquoi ? Est-ce que selon vous, il y a une menace existentielle ? Est-ce que ce qui se passe aux confins de l'Europe en Ukraine est une menace existentielle ? Les mots ont leur importance, Eric.
Moi, vous avez tout à fait raison. Les mots ont leur importance. Moi, je considère que la menace existentielle, elle est sur notre sol. C'est-à-dire que c'est sur notre sol que les Français sont agressés. C'est sur notre sol que les Français sont remplacés par une autre civilisation. La menace qui existentielle, au sens propre, les mots ont un sens, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui menace l'existence de notre pays, de notre civilisation, c'est sur notre sol, avec une civilisation étrangère qui nous impose ses normes, ses mœurs, par la force ou par le nombre.
Vous faites une hiérarchie aujourd'hui entre ce que vous appelez, ce que vous avez toujours dénoncé, c'est-à-dire le remplacement d'une population par une autre, et l'agression de Poutine en Ukraine est peut-être davantage.
Oui, tout à fait.
C'est une menace.
Je fais une hiérarchie, ce n'est pas secondaire, mais si vous voulez, Poutine a attaqué l'Ukraine. Que je sache, il n'a pas attaqué la France. Donc, effectivement, que moi, ce que je vois, c'est d'abord les intérêts de la France. On peut estimer que l'attaque de l'Ukraine par la Russie est une menace pour l'Europe, pour le continent européen. Je peux très bien comprendre que les Polonais et les pays baltes soient inquiets. Et donc, comme nous sommes solidaires et dans la même Union européenne, il est naturel que nous prenions compte de leurs angoisses et de leurs inquiétudes. C'est tout à fait légitime. Mais il y a quand même d'abord les intérêts de la France. Et moi, je considère que la menace existentielle, ça m'a beaucoup choqué cette expression employée par Emmanuel Macron, elle est sur notre sol celle du grand remplacement.
Pas de conséquences politiques, pas de conséquences économiques, pas de conséquences géopolitiques à ce qui se passe en Ukraine sur la France.
Non, il y a toujours des conséquences. Vous savez, dès qu'il se passe, ça c'est toute l'histoire de l'Europe depuis 1000 ans, dès qu'il se passe quelque chose en Europe, il y a des conséquences sur le reste du continent. Non, il y a toujours des conséquences. Mais moi, vous me demandez la menace existentielle. La menace existentielle, je l'ai définie.
Dans ce contexte de guerre, Éric Zemmour, la dette française ne cesse de se creuser. Il en va de notre souveraineté, c'est aussi un sujet important. Le ministre Bruno Le Maire a poussé un cri d'alarme hier dans le JDD. Il réclame un changement drastique de notre modèle social. Il est temps de sortir du mirage de la gratuité universelle. Ça, vous auriez pu le dire. Vous pourriez le dire.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai lu l'interview de Bruno Le Maire dans le JDD, excellente, je me suis dit, mais quel dommage que cet homme ne soit pas ministre des Finances depuis 7 ans. Franchement, il aurait été un excellent ministre des Finances. Mais peut-être qu'il a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Il a même fait le contraire. Parce que quand il nous annonce 10 milliards d'économies, je voudrais simplement vous donner 2-3 chiffres pour vous montrer le côté dérisoire de ce chiffre. 10 milliards d'économies, il a fait voter un budget avec des dépenses pour 2024 de 495 milliards. Mmh. Si on ajoute les dépenses sociales et les dépenses des collectivités locales, en tout, ça fait des dépenses publiques qui évaluent à 1 500 milliards. Et notre dette est de 3 000 milliards. Quand M. Le Maire est arrivé à Bercy, elle était de 2 100 milliards. Je sais qu'on va dire le Covid, etc. Mais, tous les autres pays ont connu le Covid. Tous les autres pays ont aidé les gens à vivre pendant le Covid. Ils ont beaucoup moins de déficit et ils ont réduit les dépenses très vite après la sortie du Covid. Ce que n'a pas fait Monsieur Le Maire. Donc si vous voulez, il vient aujourd'hui nous dire il va falloir faire ci, faire ça, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Par ailleurs, il nous explique qu'il va faire une réunion politique avec tous les partis, que ça soit de l'Assemblée nationale, pour voir quelle économie il peut faire. Il se moque du monde. Il sait très bien que les autres partis sont là pour réclamer toujours plus de dépenses.
Une nouvelle réforme d'assurance chômage avec un tour de vis supplémentaire et d'autres choses. On dirait que vous pensez que c'est rien du tout.
Non mais moi, je ne pense pas que c'est rien du tout. J'essaye de mettre en rapport les économies qui sont annoncées avec les grandes masses des dépenses. C'est quand même la moindre des choses. Je pense qu'il faut, vous avez raison, il faut faire des économies. Moi, vous savez, depuis quelques mois, tous les 16 du mois, j'explique sur les réseaux sociaux que toutes les gabegies, tous les gaspillages et tout ce qu'il faut faire pour économiser. Pourquoi le 16 du mois ? Parce que nous avons des prélèvements obligatoires qui s'élèvent à 47% du PIB. Donc, à peu près, ça fait que à partir du 16 du mois, vous ne travaillez plus pour vous, ni moi, on travaille pour l'État. Et donc, il faut évidemment réduire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Très vite. Un, il faut réduire tous les gaspillages. Il y en a, mais énormément.
Nous sommes d'accord.
Je vous donne deux exemples très vite. Tout le monde est d'accord. Mais personne ne le fait depuis. Vous avez raison, tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait depuis 40 ans. Quand même, il y a des gaspillages énormes. J'ai cité la dernière fois cette fête pour le bicentenaire de la Caisse des dépôts qui coûte 3 milliards d'euros. Avec 3 millions d'euros, pardon, vous voyez.
Éric Zemmour, avec... vous avez raison. Et... C'est pas ça qui va faire de
la France un pays
producteur.
Vous avez tout à fait raison.
Et réindustrialiser.
Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est les gaspillages. Mais il y a aussi un grand plan d'ensemble. Si vous voulez, je pense que le service public a été absorbé par la technocratie. Je veux dire que l'État technocratique a complètement laminé le véritable service public. Aujourd'hui, on a plus de personnel dans les bureaux qui font des normes que des gens sur le terrain, que ça soit pour la santé, que ça soit pour la police, que ça soit pour... Et c'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut remettre en action.
Dans l'actualité, Emmanuel Macron prononcera un discours ce soir pour les 80 ans du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il le sera très certainement question, Éric Zemmour, de la lutte contre l'antisémitisme. À ce sujet, de quoi ce qui s'est déroulé à Sciences Po et qui fait l'objet d'une enquête est-il le nom de votre point de vue ?
Ah, alors vous avez, il y a plusieurs questions dans votre question, mais je répondons d'abord au CRIF. Je vais vous dire, je pense que, je vais vous faire une confidence, les Français de confession juive n'aiment pas le CRIF. Ils n'aiment pas ces dîners du CRIF. Le CRIF a longtemps défendu les adversaires des Israélites français qui se faisaient agresser. Je pense que les Français de confession juive n'aiment pas ce côté lobby à l'américaine. Ah non, moi je ne me sens aucunement représenté par le CRIF. Ce n'est pas dans la tradition française, ces gens se prennent pour un lobby à l'américaine. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et la plupart des Français de confession juive ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent être des Français, ils ne veulent pas jouer au lobby à l'américaine. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous parlez de Sciences Po et de l'antisémitisme. Je vais vous dire, je vous avoue que quand on parle de Sciences Po, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai fait Sciences Po dans les années 70. Je venais de mon 18e arrondissement, vous avez un quartier vraiment authentiquement populaire. Et pour moi, c'était la consécration. J'arrivais dans l'école de la bourgeoisie, ce qu'elle était dans les années 70. Et j'étais arrivé par la méritocratie républicaine. Il y avait un concours d'entrée, j'ai eu des bonnes notes et je suis rentré. Il faut bien comprendre que le Sciences Po que j'ai connu est mort. Il a été tué il y a 20 ans par Richard Descoings, mais je vais vous dire, par une ZAD islamo-gauchiste.
Une ZAD islamo-gauchiste.
Ah, pour moi, Sciences Po aujourd'hui, c'est ça. Et pour quelle raison ? Je vais vous dire. On a, un, supprimé le concours. On a d'abord fait de la discrimination positive pour les gens qui venaient de banlieue. Je venais de banlieue, moi, toute ma famille était en banlieue. J'ai jamais eu de discrimination positive et j'ai eu le concours d'entrée. Après, on a supprimé le concours pour tout le monde. Et maintenant, on fait rentrer les gens, je vais vous dire, sur leur bonne mine politique. Par ailleurs, on a institutionnalisé le wokisme dans les enseignements, que ça soit de sciences politiques ou d'autres. On étudie la théorie du genre, etc. Je répète, Sciences Po, non seulement le niveau s'est effondré, mais en plus, c'est devenu une ZAD islamo-gauchiste.
Que faire ?
Et on arrive. Que faire ? Ah, c'est très simple. Remettre les principes d'excellence académique, refaire le concours d'entrée, supprimer les enseignements woke sur la théorie du genre et autres. Vous savez qu'aujourd'hui à Sciences Po, il y a une hijab day, une fois par an, pour que les jeunes femmes, même non musulmanes, viennent en hijab. Il y a une queer week pour s'habituer aux pratiques des queers et LGBT. Moi, je pense vraiment... Alors, vous parlez de l'antisémitisme. Je vais vous dire pourquoi il y a de l'antisémitisme à Sciences Po, comme dans toute la société française. Je vous dis, c'est une ZAD islamo-gauchiste. C'est très simple. Islamo-gauchiste. Il y a la tradition séculaire, millénaire, d'un anti-judaïsme musulman, dans les pays musulmans, on connaît ça très bien. Et puis, il y a l'antisionisme des gauchistes depuis 48 et surtout depuis 67.
Ça donne quoi, l'ordre ?
Eh bien, ça donne la nitrate et la glycérine, vous voyez ? C'est simple, ça donne la nitroglycérine. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion d'antisémitisme et à Sciences Po et dans le pays. Plus vous mettrez de gens venus de terres musulmanes, et plus vous les mettrez en contact avec nos gauchistes et nos mélenchonistes, nos LFI qui prônent un antisionisme viscéral, ça vous donne notre société.
Le wokisme n'a pas forcément bonne presse auprès des populations immigrées.
Ah, mais vous avez tout à fait raison.
Donc,
ils le détestent. Mais je vais vous dire,
ce n'est pas le rempart finalement au wokisme.
Ah, pas du tout. Malheureusement, si vous voulez, ce n'est pas un rempart parce que ils prennent ça avec à juste titre souvent pour un symbole de la décadence de la France et des pays occidentaux.
Finalement, ça rejoint votre analyse.
Mais tout à fait. Mais je ne dis pas que je suis en désaccord avec tout avec eux. Pas du tout. Ils ont raison là-dessus. Ils ont tout à fait raison là-dessus et je suis d'accord avec eux et ils le savent que je suis d'accord avec eux et ils sont d'accord avec moi là-dessus bien souvent. Je le vois qui s'expriment sur les réseaux sociaux. On peut, vous savez, il n'y a pas de honte à cela. Au contraire, moi, je pense que leur alliance est complètement artificielle. C'est ce que j'ai appelé un jour le pacte germano-soviétique. Un jour, il y aura un affrontement. D'ailleurs, on le voit, j'ai vu dans le Michigan qu'une municipalité musulmane commençait à embêter les LGBT. C'est inévitable qu'il y ait un affrontement. Mais pour l'instant, malheureusement, ils sont alliés contre la France et contre la tradition française.
Éric Zemmour, je souhaitais évoquer la campagne des Européennes. Nous n'avons pas le temps, nous le ferons une prochaine fois. Peut-être trois questions très très courtes pour conclure. C'est la semaine de la langue française. Aya Nakamura chante en français ?
Écoutez, je suis pas sûr. Je pense que je comprends pas très bien ce qu'elle dit. Donc, je crois comprendre le français. Je suis pas très doué en langue étrangère. Pour moi, c'est un peu une langue étrangère, mais bon.
Vous savez qu'il y a une plainte pour des propos racistes,
ah bon,
caractère raciste. Vous pensez que dire ça, ce n'est pas tomber sous le coup du racisme?
Mais en quoi c'est raciste? Ça n'a rien de raciste. Le racisme, c'est une hiérarchie des races. Je ne dis pas que cette jeune femme est inférieure à moi parce qu'elle est noire, et voilà. Non, je dis simplement que pour moi, ces chansons ne sont pas en français. C'est pas pareil.
Raphaël Glucksmann, qui refuse le débat des Européennes sur CNews, contrairement à d'autres, comme les communistes et notamment les insoumis, l'affirme entre autres que CNews vous a fabriqué, Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes le produit de CNews?
Écoutez, je pense que j'existais avant CNews, mais je suis très fier d'avoir été sur CNews et d'avoir contribué au progrès et au succès de CNews. Maintenant, ce monsieur Glucksmann est très amusant. Il défend la démocratie dans tous les pays du monde et il ne respecte pas les principes élémentaires de la démocratie, qui est la confrontation des idées dans son propre pays.
Merci Éric Zemmour.
Merci à
vous. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk et Éric Zemmour. Dans un instant, Philippe Vallée sur Europe 1.
Europe 1 Matin.
Vos signatures Europe 1 du lundi d'ici 9h. Le zapping politique Europe 1. Emmanuel Ducrot nous parlait d'une proposition de loi qui arrive au Parlement dans 10 jours pour créer et sanctionner surtout les discriminations capillaires. Ne regardez pas comme ça, Philippe.
La revue de presse d'Europe
1 aussi arrive dans 5 minutes.
Non, personne ne va regarder.
Bonjour,
personne.
Bonjour Olivier Lagarde.
Bonjour à tous.
Dans les journaux ce matin, dites-moi.
Poutine auto-réélu, un ancien ministre qui se lance dans la chirurgie esthétique et un maire qui a fait défoncer le parking de sa propre commune.
Et donc à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque lundi sur Europe 1, Philippe Vallée est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin d'un confrère qui officie sur le service public.
Oui. Mais un peu d'histoire avant. On date l'entrée de la France dans la démocratie de l'année 1881. Plus précisément du 29 juillet 1881, quand furent votées les lois sur la liberté de la presse. Depuis cette date, mis à part la parenthèse de Vichy, la France est un pays où règne la liberté d'informer. Sommes-nous à la fin de cette période?
Mais où voyez-vous que l'État fait peser une menace sur la liberté de la presse?
Ah non, c'est pas l'État qui fait peser la menace. C'est la presse elle-même, laquelle, en se posant en arbitre des élégances morales, piétine les principes de sa propre liberté. J'en veux pour preuve une histoire hallucinante que j'ai lue dans Le Monde. Le Monde qui, comme chacun sait, est le modèle déposé du journalisme, comme le maître étalon en platine iridiée déposé au pavillon de Breteuil. L'article s'étalait sur deux colonnes sous un titre alléchant. « L'étrange genèse du livre de Jordan Bardella ». Un journaliste de France Info, Jean-François Achilly, aurait évoqué avec Jordan Bardella la possibilité de faire un livre d'entretien après les élections européennes. Projet finalement abandonné.
Mais alors, où est le problème, Philippe?
Vous voyez pas le problème?
Non.
Ah bah ça prouve, Dimitri, que vous n'êtes pas un journaliste du Monde en platine iridiée déposé au pavillon de Breteuil. Dans la rédaction de France Info se dissimulerait un journaliste fasciste. C'est ouf, non? Sitôt l'article paru, la direction de France Info convoque Jean-François Achilly pour l'informer de sa mise à pied, avec interdiction de venir à la rédaction en attendant qu'il soit convoqué pour présenter sa défense. La décision fait l'objet d'une dépêche, laquelle suscite un deuxième article triomphal du Monde, qui informe ses lecteurs que grâce à ces révélations, le journaliste Jean-François Achilly a été suspendu de ses fonctions.
Mais vous avez raison, c'est une histoire hallucinante.
Eh oui, et aussitôt les réseaux sociaux se sont déchaînés, notamment sur la compagne d'Achilly, Chloé Morin, auteur d'un livre contre le wokisme, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'un couple de fascistes. Que Chloé Morin vienne de la fondation Jean Jaurès, bien connue pour être une officine d'extrême droite comme le nom de Jean Jaurès l'indique, corrobore les insinuations du Monde.
Second degré bien sûr, mais vous connaissez Philippe Jean-François Achilly ?
Très bien, j'ai été son patron pendant quelques années. Ah. C'est un excellent journaliste politique fin, doté d'un scepticisme indispensable à son métier et qui consiste à ne pas croire qu'il y a d'un côté le bien et de l'autre le mal, mais que la frontière entre le bien et le mal passe en chacun de nous. Malgré nos nombreuses discussions, je n'ai jamais su et je ne me suis jamais inquiété de savoir comment votait Jean-François Achilly. Et s'il voyait Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, pour autant, il ne m'est jamais venu à l'idée qu'il adhérait à leur doctrine. Enfin, pendant ces années, j'ai pu éprouver sa parfaite loyauté et je n'ai aucun doute que si le projet d'un livre d'entretien avec Bardella s'était précisé, il en aurait immédiatement informé sa direction, selon les règlements en vigueur à Radio France et ailleurs.
Quelle conclusion tirez-vous de cette histoire?
D'abord que si France Info était l'organe militant de la France Insoumise, je pourrais comprendre qu'on y interdise de parler avec Bardella. Mais France Info appartient à tous les Français. Et 30% d'entre eux s'apprêtent à voter pour le Rassemblement National aux Européennes. La faute professionnelle de Jean-François Achilly serait de ne pas parler à Bardella. Ensuite, Jean-François Achilly a une famille, des enfants, et non seulement l'article du Monde a déchaîné ce qu'on appelle désormais une shitstorm, littéralement tempête de merde, sur lui et sa compagne, mais il risque de perdre un travail qu'il accomplit pourtant avec talent et honnêteté depuis 25 ans. Alors la question se pose, est-ce de bon augure pour le journalisme que Le Monde soit devenu la vitrine légale de Mediapart ?
On méditera cette question. Merci beaucoup Philippe Val. Votre signature chaque lundi sur Europe 1. Allez, restez avec nous. Pascal Praud va nous rejoindre dans quelques instants pour le sommaire de Pascal Praud et vous, juste après la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le chiffre du jour.
87, Dimitri. Vladimir Poutine a donc été réélu officiellement avec 87% des voix, ou plutôt auto-réélu dans un fauteuil, annonce le Parisien. Intéressant d'ailleurs ce concept d'auto-réélection pour avoir une idée de la façon dont ça se passe. Lisez l'article de Paul Gogo qui s'est rendu dans un bureau de vote d'un quartier dortoir du nord de Moscou. Effrayé à l'idée qu'une action de protestation puisse avoir lieu, les policiers se sont permis de regarder par-dessus l'épaule des votants pour s'assurer qu'ils n'inscrivent pas de propos anti-guerre sur leur bulletin, évidemment. Et voilà comment on finit par obtenir 87% des suffrages. Et oui, l'ordre règne à Moscou, s'exclame plein d'ironie Philippe Gelly à la une du Figaro. Sa réélection, sans rival ni débat, pourrait passer pour une mascarade superflue. Elle renouvelle tout de même sa légitimité à la tête d'un pays qui le soutient en partie, faute d'alternative. Rien ne semble pouvoir l'inquiéter, sauf peut-être, explique-t-il, le vide corrosif qu'il a créé autour de lui. Le pouvoir isole, mais le pouvoir autoritaire en prison.
Retour en France avec l'actualité politique.
Et le lancement de la campagne des Insoumis ce week-end. Alors il y a eu des discours plus ou moins policés à la tribune, mais il y a les consignes données plus discrètement par le leader Maximo contre ses anciens alliés. Dans Libération, Charlotte Belaïch raconte que Jean-Luc Mélenchon appelle ses troupes à cogner. Cogner, en ce moment, raconte une élue LFI, il encourage tout le monde à y aller le plus durement possible sur nos concurrents de gauche. Et sur la boucle des élus parlementaires, il s'est dernièrement agacé de la passivité des siens face à Raphaël Glucksmann.
Alors un autre politique cogne ce matin.
Oui, mais c'est pour la photo, Dimitri. Mmh. Portrait étonnant d'Olivier Véran, qui a reçu Loris Boischaut du Figaro dans sa salle de boxe. On découvre ainsi l'ancien ministre en garde et en sueur. Il reconnaît que sa non-reconduction au gouvernement a été pour lui comme un mauvais coup au deuxième round. Politiquement, il s'est fixé l'objectif de reconquérir les électeurs de gauche perdus par Macron. Professionnellement, il va retrouver la médecine, mais pas la neurologie. Il a choisi de reprendre des études et se lancer dans la médecine esthétique, explique-t-il au journal. Je vous sens étonné et rigolard. Mais quand on y réfléchit, c'est très proche de porte-parole du gouvernement, finalement. Il s'agit là encore de masquer habilement une réalité pas très belle à voir.
Autre réalité dans les journaux, Olivier Delagarde, pas très belle à voir non plus.
Et celle de cette violence qui devient quasi ordinaire et qui concerne désormais une France qui se croyait à l'abri. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur l'assassinat de cet homme poignardé sur le parking du supermarché de Honnête-le-Château dans l'Aveyron. A priori, son agresseur qui faisait du gymkhana sur le parking n'a pas supporté ses remarques et lui a donné 5 coups de couteau. Ivre au moment de son interpellation, nous dit le journal, le suspect est connu des services de police pour possession de stupéfiants et vol. D'un parking à l'autre, moins dramatique mais plus étonnant, le Midi Libre nous apprend que les employés municipaux de Ballaruc-le-Vieux, c'est près de 7, ont totalement défoncé la chaussée du parking communal de la ville. Un carnage, plus personne ne peut y accéder. Pourquoi ? Eh bien, c'est la seule façon qu'a trouvé le maire pour empêcher l'installation de gens du voyage.
Et enfin, on reparle de Sciences Po.
Ce canard sans tête, temple du wokisme, de l'intersectionnalité et de la cause palestinienne. Je ne reviens pas sur l'affaire de l'AG dans ses locaux, interdite aux sionistes la semaine dernière, ni sur la démission du directeur. Mais bonne nouvelle, on a peut-être trouvé le futur dirigeant qu'il faut pour redonner une boussole à cette institution. Mmh. Il s'agit de Samuel Fitoussi. Vous savez, le chroniqueur qui régale les lecteurs du Figaro de ses idées iconoclastes.
Ah oui, chaque lundi, oui.
Eh bien, ce matin, il fait donc acte de candidature et promet, s'il est nommé, d'instaurer à Sciences Po une discrimination positive en faveur des étudiants de droite. Un sondage révélait effectivement que 55% des étudiants de Sciences Po avaient voté Mélenchon à la présidentielle. Il est donc urgent de mieux y accueillir les minorités idéologiques. Et afin de promouvoir cette inclusion, dit-il, des tables rondes seront organisées sous son impulsion pour déconstruire les préjugés droitophobes. Bien sûr, cela engendrera certaines injustices, admet-il en riant, mais nous bénéficierons tous de cette évolution puisque nous disent aujourd'hui les étudiants la diversité est une richesse.
Absolument. La revue de presse d'Europe 1, signature Olivier Delagarde. Merci Olivier.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Allez, dans à peine plus de 2 heures sur Europe 1, 11h-13h, vous connaissez le rendez-vous avec l'antenne d'Europe 1 et surtout Pascal Pro qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour. Est-ce que vous connaissez le parc Georges Valbon?
Ah, ça me dit vaguement quelque chose.
Il est à la Courneuve, c'est le parc qui est prévu pour accueillir les célébrations de masse pendant les Jeux Olympiques.
Ah, dites donc.
Il y a 10 000 personnes. Donc quand je vois ce qui s'est passé cette nuit à la Courneuve, je peux m'inquiéter pour ces célébrations durant les Jeux Olympiques.
Un commissariat a été attaqué, hein, je le précise pour les auditeurs qui nous rejoignent.
J'ai toujours pas compris également la nouvelle idée du gouvernement de la semaine différenciée, Gabriel Attal, pour les parents divorcés, semaine de 4 jours, vous avez compris ?
À la semaine où vous avez la garde des enfants, vous pouvez ne faire que 4 jours. Et vous rattraperez la semaine où vous n'avez pas la garde.
D'accord. Ça, c'est quand même...
C'est parce que vous n'êtes pas divorcé, Pascal, c'est pour ça.
Vous faites bien de rappeler cela. Et un bébé...
Oui, Pascal n'est pas un cœur à prendre, c'est important de le dire. Et je crois que vous l'avez longuement écrit dans le JDD hier.
Oui, voilà.
Une mise au point s'imposait, j'ai l'impression.
Pas du tout. Je vois que vous lisez attentivement ce que j'écris, cher ami. Mais vous avez raison, il faut toujours lire attentivement. Bon, et puis, alors, c'est une information que je n'ai pas entendue, figurez-vous, hier soir dans le journal de France 2.
Dites-nous.
Et dans une autre radio de service public que j'écoute parfois le matin. Ce matin, j'ai pas entendu ça. Le Puy du Fou est sacré meilleur spectacle du monde, figurez-vous.
On en a
récompense,
parlé.
Récompense internationale à Los Angeles, l'équivalent des Oscars pour un théâtre en plein air. Alors évidemment, si c'était Benjamin Stora qui écrivait les tableaux historiques du Puy du Fou, je pense qu'on en parlerait peut-être davantage s'il était évidemment sacré meilleur spectacle du monde. Oui. Bon, en plus, c'est la Vendée. Bon, c'est un territoire un peu suspect, la Vendée. Oui. Hein, disons-le, c'est des gens qui ont résisté à la Convention. Bon, ils ont été un peu massacrés après par Robespierre, mais bon... Il l'avait quand même un peu cherché, disons-le. Donc, tout ça fait que le Puy du Fou n'est pas toujours en odeur de sainteté parmi nos éditorialistes. Mais c'est le meilleur spectacle du monde. Du monde. C'est une récompense, je l'ai dit, internationale. C'est l'équivalent des Oscars. Donc ça se souligne quand même.
Oui, on en parlera tous ensemble sur Europe 1, le numéro Anissa Haddadi pour intervenir.
01 80 20 39 21.
Voilà, et Pascal, on vous retrouve aussi dans 10 minutes pour l'heure des pros.
Je
sur
fais
CNews,
rire mon ami Philippe.
Enfin, oui.
Je ne sais pas pourquoi.
Allez, c'est l'article du JDD.
Oui.
Ah oui, bon, je vous
ça
le fais suivre.
Ça va.
Allez, Emmanuel.
Bon, je reviendrai demain si vous êtes sage.
Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors vous nous parlez ce matin d'une proposition de loi qui va être examinée le 28 mars à l'Assemblée et qui vise à sanctionner la discrimination capillaire au travail. C'est sérieux cette histoire ?
Mais c'est une proposition de loi en tout cas déposée par le député de Guadeloupe Olivier Servat du groupe Liotte qui vise à réprimer pénalement les distinctions fondées sur la texture, la couleur, la longueur ou le style capillaire d'un individu. Je suis allée lire l'exposé des motifs de la loi parce que je suis très consciencieuse et je les ai trouvés totalement tirés par les cheveux. Premier paragraphe, les discriminations liées au style et à la texture capillaire sont des problématiques largement traitées aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Ah, donc ça se fait outre-Atlantique, il faudrait faire pareil.
Eh bien oui, effectivement, la tentative législative repose sur des exemples américains. Une étude menée, tenez-vous bien, par une marque de produits d'hygiène Dove aux États-Unis, selon laquelle les deux tiers des femmes afro-descendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche, leurs cheveux afro pouvant être perçus comme non professionnels. Autre exemple cité très sérieusement, celui de Michelle Obama qui expliquait dans une émission de télé qu'elle s'était sentie obligée de se lisser les cheveux quand elle était à la Maison Blanche. Alors oui, c'est un sujet politique aux États-Unis. Est-ce que c'en est un ici ? On ne sait pas. Enfin, un troisième point sert à appuyer la démonstration. Une étude britannique de 2009 montrant qu'une femme blonde sur trois se teignait en brun pour avoir l'air plus intelligente au travail. Là, on est quand même à un cheveu du ridicule. Incroyable. Dans la démonstration victimaire.
Il y a une réalité de la discrimination capillaire en France, Emmanuel.
Mais écoutez, le texte cite un sociologue de l'Observatoire des discriminations de la Sorbonne. Selon lui, nos cheveux peuvent influer positivement ou négativement sur les évolutions de carrière. Problème, on n'a absolument aucune étude d'aucune sorte pour corroborer cette affirmation. Bon courage pour prouver que vos cheveux roux, crépus ou votre crâne chauve vous ont coûté votre poste. Les auteurs de la proposition de loi ont bien trouvé un exemple français à citer, récent, celui d'un steward d'Air France qui s'était vu reprocher ses tresses, mais c'était en 2012. Ce qui a été, quelle surprise, reconnu comme une discrimination par la Cour de cassation en 2022. Mais,
10 ans plus tard quand même.
Oui, 10 ans plus tard, mais pour une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Ce qui aurait pu être aussi une discrimination liée à l'apparence physique, c'est donc un non-sujet.
Bon, est-ce que cette discrimination capillaire justifie une loi, selon vous ?
Non, la France interdit déjà 25 motifs de discrimination, c'est très bien. L'âge, le sexe, l'état de santé, l'accent. Un de ces points concerne spécifiquement l'apparence physique, ce qui inclut la coiffure. Vouloir inscrire dans la loi des choses improuvables et qui, dans le pire des cas, sont déjà sanctionnables, à quoi ça sert ? Eh bien, à un moment où on essaye de sortir d'une inflation normative délirante, ce besoin de couper les cheveux en quatre ne tombe pas pile poil.
Ah, je vous avais dit qu'elle
jusqu'au
les
bout. Ah bah écoutez, une petite dédicace à Donna Vidal-Revel qui tenait beaucoup, notre patron qui tenait beaucoup à ce sujet.
Elle est signée au poil.
Oui, voilà. Oh là là, signature Europe, Emmanuel Ducrot. Merci.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Alors, il est blond, mais très intelligent. Le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous.
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer.
Mais avant cela, rappelez-vous, vendredi, nous nous sommes quittés sur une énigme.
Ah oui.
Vous savez, les Jeux Olympiques, moi j'y ai participé.
Eh oui, Gérard Larcher sur France 2 révélait avoir participé aux JO. Mais quand ? Dans quelle discipline ? Si vous n'avez pas fait vos devoirs, Dimitri Anissa, voici la réponse.
Vous savez, les Jeux Olympiques, moi j'y ai participé. C'était à Montréal.
C'était donc aux Jeux de Montréal en 76. Et non, l'actuel président du Sénat n'était pas l'athlète, mais bien le vétérinaire de l'équipe de France d'équitation.
Voilà.
C'était vraiment très intéressant.
Voilà, parenthèse refermée, le zapping d'Europe 1, c'est parti.
5, 4, 3, 2, 1, 0, parfait.
Ferme ta gueule.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Et oui, ce week-end, c'était 50 nuances de gauche. Ils étaient partout, absolument partout, à commencer par Raphaël Glucksmann sur BFM TV.
CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématique d'extrême droite et que donc je ne compte pas m'y rendre.
Bingo ! Un de plus sur la liste qui ne souhaite pas aller sur CNews. Les sociodémocrates ont quand même une vision bien à eux de la démocratie.
Ah, 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 folie, ah, ah, c'est pas
Non, ce n'est pas fini, puisque ce week-end, c'était surtout le grand lancement de campagne pour les européennes de la France insoumise. Enfin, des européennes.
Oui, j'assume de dire qu'il y a une dimension nationale dans ce scrutin.
Et oui, comme l'a dit Manon Aubry sur France Info ou encore Jean-Luc Mélenchon lors du meeting.
Vous devez, par la campagne que nous menons, nous hisser devant tout et tout le monde pour être en état de combattre et de préparer l'élection de 2027.
Les insoumis voient le 9 juin comme la première étape de l'élection présidentielle de 2027.
Je vais être bientôt le maître du monde.
Eh oui, Mélenchon est toujours là. Et plus les années passent, plus...
Monsieur Poutine est un chef d'État dangereux parce qu'il est un chef d'État impliqué par la question de la paix et de la guerre. Il fait donc dans son domaine ce qu'il croit être son devoir, comme nous-mêmes, nous faisons ce que nous croyons être notre devoir.
Sans commentaire, alors certains vous diront que Mélenchon n'est juste plus dans le coup, d'autres vont plus loin, regardent dans le rétro pour faire une analyse, comme la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot sur Radio J.
Plus de 30 ans de cumul de mandats, élu local, élu régional, eurodéputé, sénateur, et qu'est-ce qu'il nous a laissé de ses 30 ans? Rien. Ah si, peut-être, il nous a laissé Louis Boyard à l'Assemblée Nationale. Super.
Ouais, c'est vrai que dit comme ça, franchement, plus de 30 ans en politique et laisser cet héritage-là...
Ce qu'a fait le Hamas est inacceptable, mais ce n'est pas non plus inexplicable.
On comprend pourquoi Jean-Luc pense encore à 2027. Après, vous savez, les chiens ne font pas des chats.
La paix, la paix, la paix, c'est notre vote.
Salut.
Merci Dimitri Vernet, le zapping politique sur Europe 1 comme chaque matin.
À demain.
À demain Dimitri, 8h56, l'info continue dans un instant avec l'heure des pros sur Europe 1. Bonne journée.